Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler.
Ah, c'est pas faux.
Non ! Non !
Mon pinaise, oui !
Pas ça ! Non !
Dites mon nom.
Non ! Non !
Internet et leur demander de me
faxer
les numéros de téléphone de
toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin comme ça si c'est l'apocalypse ce soir. Bip bip.
Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Les Simpsons, la série d'animation culte de la Fox. La semaine dernière, pour notre premier épisode, on a évoqué l'histoire et l'évolution de cette série au long cours, 32 ans que ça dure. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux personnages qui peuplent Springfield, la famille Simpson évidemment, mais aussi les personnages secondaires qui ont le plus marqué les esprits. Pour passer tout ce petit monde en revue, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Clémence.
Et Rafik Djoumi. Salut Rafik.
Salut Clémence.
Alors, dans cet épisode, on parle des personnages, donc impossible de ne pas commencer par celui qui ne jure que par la bière et les donuts et qui a fait rentrer l'expression « d'eau » dans le dictionnaire anglais, le grand, l'inénarrable Homer Simpson. Homer Simpson, donc, c'est la star de la série, hein, très clairement. Dès la saison 3, c'est le personnage central d'un nombre majeur d'épisodes. Il a 38 ans, il pèse 117 kilos et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts. Mais quand même un bon fond.
Exactement. Et ce bon fond, en fait, il ne tient qu'à une chose, au fond, mais qui est absolument cruciale dans une série qui est basée sur une famille, c'est qu'il aime réellement sa famille, profondément, de façon inconditionnelle. Et à partir de là, tout le reste, il peut être nul absolument en tout. On sait que d'une manière ou d'une autre, le public, finalement, va rester derrière lui parce qu'on sait qu'il ne fera jamais de mal au sien, en fait. Et c'est quand même important parce que, notamment, pour le public américain, où il y a quand même cette sensation d'être des super achievers, de tout réussir dans la vie. Et évidemment, on se doute bien que la plupart des gens ne réussissent pas tout et le vivent très, très, très mal. Je pense que l'attachement à Homer, il est aussi dû à ça. Au fait que, ouais, on peut rater tout, mais au moins, on ne rate pas l'essentiel. On continue à les aimer jusqu'au bout.
Et puis, ce que tu dis, en fait, sur les super achievers, c'est très intéressant parce que c'est critiqué, en fait, dans la série. Et à travers Homer, justement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un épisode. Homer, c'est quelqu'un qui travaille à la centrale nucléaire de la ville, hein, pour Monsieur Burns, quoi. Et en gros, il y a un épisode, moi qui je trouve assez génial à l'époque, hein, où, en gros, il voit une pub à la télé qui lui promet, en fait, s'il utilise cette lotion, il va pouvoir avoir les cheveux qui repoussent. Et en gros, il va acheter ce truc et ça devient super crucial parce qu'il se le met, les cheveux repoussent. Et d'un seul coup, en fait, ça devient l'alpha mâle, en fait, en gros, qui va réussir. Et tout le monde le remarque. Et, mais Homer, vous êtes incroyable, quel charisme, etc. etc. Et il commence à lui donner de l'importance dans la centrale. Il devient un exécutif, etc., etc. On lui donne les clés en or des toilettes, je ne sais pas quoi. Donc, en fait, il y a tout un truc comme ça. Et en fait, la connerie qui se passe, c'est que tu as Bart qui tombe sur le tube. Qui se dit ah, mais moi je vais avoir une barbichette et tout, je vais avoir un truc, et il se le met sur la tronche et en gros il n'y a plus de lotion, il perd ses cheveux et il redevient Homer Simpson, en fait, aux yeux des gens, un loser, etc., etc. Et bon, ben voilà, on l'a dit plusieurs fois, hein, dans l'épisode précédent, les Simpsons traitent, en fait, même sur le ton de la blague, même sur le ton de choses qui n'étaient pas forcément traitées, encore une fois, dans les sitcoms à cette époque-là, en tout cas qui étaient tournées vraiment comme un truc assez léger. Et je pense que du fait que ce soit de l'animation, ben, en fait, on pouvait traiter ça. Et Homer, c'est le vecteur de ce genre de choses. Moi, je sais que c'est un personnage, je ne sais pas quel est exactement le tournant, en fait, dans la série pour que ça devienne le personnage majeur, parce que c'est vrai que les trois premières saisons, c'était Bart, et il avait son clip, il avait ses chansons, il avait tous ses trucs, il y avait Bartman, il y avait tout ça.
Il a lancé la série, en fait, Bart, effectivement, puisqu'il y a eu, on n'en a pas parlé dans l'épisode précédent, mais il y a eu cette, ce qu'on appelait la Bartmania, en fait.
Tout à fait, c'est ça, effectivement, trois ans, trois saisons.
On va y revenir dans un instant.
Et du coup, en fait, je ne sais pas quel est le point d'ancrage exact pour lequel Homer est devenu finalement le héros, mais je sais qu'en tout cas, moi, l'épisode... que j'ai trouvé vraiment formidable, en fait, et qui m'a vendu émotionnellement le personnage. C'est un épisode où, en fait, il y a un restaurant japonais qui s'installe en ville. Et en gros, il décide, il veut pas y aller. Sa mère lui dit, mais viens, on va, sa femme, en fait, vient le chercher. Il dit, si, faut qu'on essaye des trucs différents. Ça fait chier, il y en a marre, on y va. Et en fait, ils vont essayer le truc, il adore. Et d'un seul coup, il va absolument tester tout ce qu'il y a dans le menu. Et il veut tester le soir où le chef est en train de batifoler avec une de ses compagnes. Il veut tester le poisson super rare. Je sais pas comment ça s'appelle ce poisson en fait qu'il faut cuisiner d'une certaine manière. Sinon il y a un poison en fait qui se déclenche. Et en gros il veut le tester. Il le teste alors que c'est pas le chef qui le cuisine. C'est un apprenti. Et en gros il est persuadé qu'il va mourir. Et du coup il commence à faire une bucket list en fait. Me réconcilier avec mon père, passer du temps avec ma fille, faire l'amour à ma femme, etc., etc. Il fait toute une bucket list parce qu'il est persuadé qu'il va mourir. Et c'est tellement bien écrit, alors que normalement tu sais qu'il va pas mourir, tu vois. C'est tellement bien écrit que tu deviens persuadé qu'il va mourir en fait dans cet épisode. Et il le joue jusqu'au bout en fait, c'est-à-dire qu'il y a ce truc où il se met à écouter les fameuses cassettes self-help en fait qui pouvaient exister dans les années 80-90 et en gros, il regarde le soleil se lever, t'es persuadé en fait qu'il meurt, mais en fait, il s'endort. Et sa femme le réveille, et elle se rend compte, elle le réveille en se rendant compte qu'il est vivant parce que sa bave est chaude. En fait, voilà. Et donc, il y a tout un truc comme ça qui rend le truc hyper émouvant, alors que c'est factice presque. Tu sais, en fait, quelque part qu'il ne va pas mourir. Tu ne peux pas te dire que c'est voilà. Mais voilà, ça l'a attaché émotionnellement en fait, à quelque chose. Et je sais pas si c'est ça, mais pour moi, je sais que je me suis dit, ah oui, c'est un personnage vraiment, on savait que c'était un personnage clé, mais c'est vraiment un personnage attachant et émouvant, en fait. Et cet épisode-là, il arrive assez tôt hein, dans la série. Hein. Il arrive saison 2, saison 3, je crois.
En fait, ce qui a rendu Homer important dans la série, c'est pas forcément au départ le public que les scénaristes. Parce qu'ils voulaient tous écrire pour lui, en fait. Et pour une raison simple, c'est que c'était le personnage auquel ils pouvaient le plus facilement s'identifier. Et comment dire, d'après eux, il y a beaucoup d'histoires personnelles du pool de scénaristes qui arrivent à Homer dans ses premières saisons. C'est beaucoup plus difficile, sans doute, pour eux d'écrire pour Bart ou Lisa, par exemple. Mmh. Ou même Marge, mais on en reparlera plus tard. Donc déjà, voilà, Homer, c'est un peu le réceptacle de tout ce qu'on a foiré dans sa vie, mais qu'on a foiré, je dirais, de bonne foi, quelque part. Tous ces défauts, en fait, on nous montre d'un épisode à l'autre qu'à chaque fois, justement, qu'on essaie de les corriger, finalement, ça nous donne quelque chose de déplaisant. Le Homer dont tu as parlé avec des cheveux en mode alpha mâle, on n'a pas envie de lui. Il ne nous plaît pas. Il y a un épisode aussi où il se gourde, il demande des cassettes pour maigrir. C'est censé être un truc que tu écoutes le soir en te couchant. Et en fait, ils se sont plantés. Ils lui ont envoyé des cassettes pour apprendre la langue anglaise. Et du coup, il se met à parler un anglais absolument incroyable, impeccable, mais en disant toujours des conneries, en fait. Il continue à être totalement stupide, mais avec un langage hyper châtié.
Et il y a ce truc, en fait, avec Homer, qui est vachement important aussi. C'est que, comme c'est une série d'animation, en fait, tu peux te permettre de montrer sa stupidité littéralement de manière visuelle. C'est-à-dire qu'en gros, il y a ce plan absolument génial où il se parle à lui-même, tu vois, et la caméra part de sa bouche à sa tête, et en fait, si tu veux, il y a sa tête qui parle, donc c'est la voix off, qui redescend parce qu'il dit finalement l'inverse de ce qu'il vient de se dire à lui-même, ou alors, en fait, à un moment donné, les mecs disent, mais tu penses à quoi? Et la caméra monte, et d'un seul coup, t'as ce truc hyper connu, mais qui est vraiment génial, en fait, du singe, en fait, qui tape sur ses cymbales, comme ça, et en fait, en gros, c'est visuellement, tu peux pas le montrer ailleurs que dans l'animation, et ça participe, encore une fois, de la caractérisation du personnage, c'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc... voilà, qui fonctionne. Moi, je pense aussi, il y a cet épisode où, et ça, c'est pareil, je pense que tu peux pas le faire autrement qu'en animation. Il y a cet épisode où il comprend pas c'est quoi déjà le truc où il va au Japon pour voir ce qui s'est passé avec une figure qui lui ressemble, en fait.
Une pub,
voilà, mais
pub
il le sait pas.
En fait. Avec sa tronche sur une boîte de lessive, je crois.
Ouais, c'est ça, mais au début, il le sait pas. C'est-à-dire, il comprend pas ce que c'est. Il croit que c'est un truc, il croit qu'il est révéré au Japon, mais il sait pas pourquoi. Et il part là-bas pour vérifier. Et il se trouve que c'est, en fait, c'est juste une pub, effectivement. Et ça marche parce que visuellement il est tellement reconnaissable que tu peux en fait en jouer et du coup en fait voilà traiter à travers l'animation ce truc là et mine de rien en fait c'est là où le physique du personnage la façon dont il est dessiné tout ça rentre aussi en ligne de compte en fait dans bah voilà le tout simplement les traits de caractère qu'il peut avoir quoi.
Il y a un élément de sa personnalité qui va être assez vite corrigé, et je pense parce qu'il y a dû avoir de gros débats justement chez les scénaristes, c'est sa violence. Parce que le fait que ce soit un cartoon, la violence, elle est inhérente à l'esprit du cartoon, bien sûr. Et quand on montre un personnage en colère, on le montre en train d'user de sa violence. Et donc, il y a cette image célèbre dans les premières saisons d'Homer en train d'étrangler son fils Bart. Mais en fait, très vite, la série Simpson, justement en devenant le sitcom familial américain par excellence, les gars se réalisent qu'on a quand même dans le sitcom familial du pays un père qui maltraite son gosse physiquement dans chaque épisode. Donc ils vont virer ce truc assez rapidement. L'image restera gravée, bien sûr, mais ils vont le virer, je pense, parce que justement ils s'aperçoivent de l'importance qu'ils ont pris et que le caractère cartoonesque de cet étranglement passe moins bien, en fait.
Effectivement, finalement, c'est plus des accidents qui vont lui arriver à lui directement, qui vont toucher. En 30 ans, il est tombé un nombre incalculable de fois, il s'est fait électrocuter, il a été frappé par la foudre, il a brûlé, il a été dans des explosions, il s'est fait tirer dessus, il a fait des crises cardiaques. Enfin, personne ne pourrait survivre à tout ce à quoi il a survécu. Et sa stupidité, il la doit à un crayon qu'il a dans la tête depuis qu'il est tout petit. Un épisode qui en parle, dans lequel justement il est opéré pour qu'on retire ce crayon. Et d'un coup, on découvre que sans ça, il a des capacités mentales tout à fait normales. Bon, en même temps, un Homer normal, c'est un peu dommage parce que ça nous priverait de ça.
Spider cochon, Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile ? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde.
Et donc, Homer Simpson tellement stupide que en 2010, des chercheurs ont identifié un gène qui limitait l'apprentissage chez les rats, et ce gène a été surnommé le gène Homer Simpson.
Exactement. Le paradoxe étant que donc il a le prénom d'un des plus grands dramaturges de l'histoire de l'humanité. Matt Groening disait qu'il s'en était un peu servi pour piquer au vif son père, qui est en fait l'exact inverse, qui était au contraire un personnage très urbain, très intellectuel, très très éduqué, et que voilà l'idée de faire de Homer la célébrité incarnant la bêtise et la beaufrie américaine, parce qu'il y a quand même cet aspect vraiment de toutes les caractéristiques associées justement au beauf américain sont là chez Homer. Ce qui est intéressant, parce que en France, on a eu des tentatives dans le comic strip de mettre en scène le beauf. On avait Cabu, hein, qui a fait toute une série sur les beaufs, par exemple.
Et Bidochon.
Mais voilà, mais on n'est jamais parvenu à les rendre sympathiques. On se place toujours au-dessus d'eux. Alors que dans le cas d'Homer, malgré son incroyable stupidité, on ne peut pas s'empêcher à un moment ou un autre de se dire, mais en fait, c'est moi. Homer, c'est moi. Parce que ce qui compte chez Homer, c'est, encore une fois, je pense, hein, cette bonne volonté. Il foire tout, mais voilà, sa paresse, sa lâcheté ne nous apparaissent jamais comme des péchés terribles, en fait.
Il n'y a pas de méchanceté derrière. Il a une forme de pureté dans sa bêtise.
Exactement,
qui le rend attachant, finalement, là où un Bart, parfois, peut être vraiment de mauvaise composition, machiavélique, et où finalement, il y a cette intelligence en plus. Alors, Bart, c'est un enfant, il a seulement 10 ans, hein. donc on lui pardonne aussi certaines choses. Là où adulte, lui, est un homme... Là où Homer est un adulte complètement irresponsable.
Et ce qui est intéressant, mais on reviendra sur ces personnages après, c'est sa relation avec Lisa aussi, qui est censée être justement le personnage le plus intelligent de la famille et qui est désespérément en attente d'être reconnue par ce père idiot. Ça, c'est pas commun en termes d'écriture.
On va y revenir dans un instant, mais avant de parler de Lisa, on va quand même s'attaquer à la femme d'Homer, Marge.
Homer, tu fumes du hashish ? Et maintenant, je suis en possession de drogue, je risque la prison, sauf si je témoigne contre toi.
Marge Jacqueline Bouvier Simpson et Marjorie Jacqueline Bouvier, née en 59, donc c'est l'épouse d'Homer, la mère de leurs trois enfants. Et c'est le stéréotype de la mère de famille américaine moyenne. On l'a dit dans le premier épisode, sa coupe de cheveux est inspirée de la fiancée de Frank Einstein, cette espèce d'énorme choucroute sur la tête, qui est bleue en l'occurrence. Et Marge, alors c'est un personnage finalement qui n'a pas vraiment les faveurs du public, alors qu'il est très intéressant, mais c'est vrai qu'elle a ce côté plus lisse que les autres, elle ne fait pas de bêtises, elle a plutôt pour faire la police.
Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même en fait pareil, dans la même logique en fait, de découverte de la série à l'époque, hein, parce que moi j'ai regardé les Simpsons vraiment quand ça passait, c'était quasi religieux pour moi, hein, c'est-à-dire qu'en gros, dès que ça a commencé, le samedi soir, il fallait que je sois chez moi pour enregistrer l'épisode, pour le voir, le découvrir au moment où ça passait, etc. etc. Et donc effectivement, moi j'ai en plus grandi pour le coup vraiment avec la VF, quoi. Et je pense comme la plupart des Français en vrai, hein, je pense que c'est très compliqué de décorréler la VF des Simpsons, quoi. Et ça participe de l'attachement. Mais par exemple, je me rappelle d'un épisode, encore une fois, où Marge est sur le point de tromper Homer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un prof de bowling, en fait, qui débarque dans sa vie.
Dès la première saison, même. Hein.
Ouais, ouais. Et qui d'un seul coup lui fait le grand jeu, quoi, qui l'a séduit et tout.
Il faut préciser qu'avant qu'elle soit tentée de tromper Homer, elle se retrouve pas au bowling par hasard. C'est parce qu'en basiquement, Homer lui a oublié de lui offrir son cadeau d'anniversaire.
Donc il lui offre une boule de bowling qui était la boule de bowling qu'il voulait pour lui.
Donc voilà. Elle a strictement rien à foutre. Et lui, il espère qu'en fait, elle va lui donner cette magnifique boule. Et finalement, de colère, elle décide de la garder et d'aller elle-même faire du bowling.
Voilà.
Et c'est là où elle tombe sur ce séducteur.
Voilà. Et du coup, en gros, se joue donc cette espèce de jeu de séduction où Homer sent lui pour le coup qu'il est en train de la perdre. Et en fait, il y a ce moment clé qui en plus, moi, je trouve assez simple, mais assez bien écrit, en fait, où elle doit choisir entre deux chemins. Et en fait, elle arrive vraiment jusqu'à ce stade-là. En fait, tu te dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est tellement bien écrit, les Simpsons, que tu te poses la question, en fait. Alors que normalement, tu devrais savoir, en fait, que c'est pas le cas, qu'elle va vraiment retourner vers Homer, tu vois. Mais du coup, il y a cette tentation, cette idée, en fait, à un moment donné, de le tromper. Et puis finalement, évidemment, elle se ravise et elle rentre chez elle parce qu'elle aime profondément Homer, elle aime profondément sa famille. Voilà, il y a toutes ces tentations, toutes ces choses qui sont mises en fait justement pour la contrer. Mais c'est le propre en fait des meilleurs épisodes, c'est-à-dire qu'une fois t'as créé un personnage en fait qui fonctionne d'une certaine manière, qui a une certaine rigueur morale, qui effectivement peut être lisse parce que c'est comme ça qu'elle est définie. Bah en fait, tu lui envoies quelque chose qui va la contredire en fait, qui va la pousser dans ses retranchements et questionner ce code en fait qu'elle peut avoir. Homer, par exemple, c'est sa stupidité. Donc les épisodes où il devient intelligent, c'est, ben, d'un seul coup, en fait, c'est hyper ludique pour le spectateur de se dire « Ah tiens, qu'est-ce qui se passe en fait ? Homer devient intelligent. » Ben, là, c'est pareil. C'est-à-dire que tu la pousses un peu au crime, entre guillemets, tu la pousses en tout cas en dehors de sa zone de confort et tu joues avec ça. Et ça, en fait, il y a plein d'épisodes en fait, qui font ça mine de rien avec Marge. C'est-à-dire, il y a ce truc aussi où elle a la Thelma et Louise, elle part avec une amie. Voilà. Et tu la confrontes, en fait. Marge, il y a sa famille, il y a aussi ses sœurs, si tu veux, où d'un seul coup, bah, tu vas la confronter à deux nanas qui représentent absolument l'inverse de ce qu'elle est, en fait. Donc, du coup, deux jumelles, en plus.
Thelma et Patty.
Voilà. Et donc, en fait, Marge, pour le coup, pour moi, c'est vraiment le personnage qui existe aussi à travers les autres. C'est-à-dire que vraiment, en fait, la façon dont les autres vont se comporter avec elle, vont un petit peu définir en fait son comportement dans l'épisode. Et mine de rien, il en faut des personnages comme ça en fait, parce que oui, comme tu l'as dit, elle a ce côté un peu
C'est vrai qu'elle est peu dans l'action, elle est plus dans la réaction par rapport aux bêtises de ses enfants, par rapport aux accidents, aux bêtises de son mari. Et donc c'est peut-être ça qui lui donne cette aura aussi plus. Plus lisse, mais elle a quand même été deux fois en prison. Et il y a certains épisodes, il y en a peu, mais il y en a qui sont centrés sur elle et qui sont vraiment, vraiment réussis. Par exemple, je pense à celui où elle décide de s'engager dans la police.
Bien sûr. Ce qui est intéressant avec ce personnage par rapport à l'identité de ceux qui écrivent la série, c'est que c'est vraiment le caractère féminin stéréotypé du sitcom. C'est la mère de famille qui ne fait qu'être une mère de famille. Et on peut imaginer qu'avec une équipe, comme on l'a dit dans le précédent épisode, très largement libérale, ce soit problématique d'écrire pour un personnage comme ça. Du coup, ce qu'ils ont fait de Marge et que je pense être intéressant, c'est qu'elle aurait pu être autre chose. On le voit au fil des épisodes que quand elle était gamine, elle rêvait d'être cosmonaute, que ses sœurs se sont foutues de sa gueule. Il y a ce plan super mignon où elle s'est mis un paquet de lessive sur la tête pour faire le casque de cosmonaute. Ensuite, on nous montre bien qu'à l'époque de la fac, déjà, c'était une super belle fille. On a des plans d'elle dans son pantalon pas de def avec ses cheveux au vent, etc. C'est-à-dire qu'elle aurait pu prétendre à largement mieux qu'Homer, voilà.
Une militante,
exactement, hein. Voilà. Donc, voilà, quelqu'un qui a des ambitions et qui va se retrouver, effectivement, dans cet univers hyper cloîtré, hyper calfeutré. Mais ce qu'il a défini aussi, Marge, comment elle s'est retrouvée là, c'est une forme de pression sociale à bien faire. Il y a une panique réelle chez elle, une angoisse totale comme on l'a entendu dans l'extrait que tu nous as passé, à sortir du cadre, en fait, à être hors la loi, etc. Et donc, elle représente, j'imagine, pour les scénaristes, en fait, tout ce qui peut peser justement sur les femmes en société et qui les empêche d'être d'une certaine façon d'être elles-mêmes. Et en même temps, il y a un autre aspect important, c'est pour ça que c'était important d'avoir ses sœurs en contrepoint, c'est que elle a trouvé un homme qui est on peut imaginer le pire en tout, mais qui l'aime. Mais vraiment, il l'aime. Il n'y a pas... les fois où Homer est tenté, on a des épisodes où il y a cette chanteuse country là, qui le drague comme c'est pas permis, etc. Enfin, il peut pas. C'est inconcevable pour lui de se détourner de Marge. Ça reste le centre de sa vie. Donc, il y a aussi... il y a ça qu'elle a pu gagner. Tu vois. Donc, c'est ambivalent et assez intelligemment écrit, je pense, comme personnage. Mais après, c'est effectivement une grande angoissée, quoi. Et ça coupe à la fiancée de Frankenstein, je pense, n'est là, pour le coup, vraiment pas hasardeuse, quoi.
Et c'est... En fait, la coupe, c'est à la fois la coupe de la fiancée de Frankenstein et apparemment le comment dire... La coupe de cheveux de la mère de Matt Groening quand il avait l'âge de Bart.
Et il avait dit une fois aussi qu'en fait, il y avait eu une tentation de montrer qu'elle avait des oreilles de lapin de son personnage qu'il avait créé de Life is Hell, en fait. Ouais. Et que ça avait été abandonné, etc. Mais qu'on devait découvrir que ses cheveux cachaient ça, en fait.
Bon, Marge, en tout cas, personnage qui a quand même des choses à raconter, hein. Et on l'a dit, qui existe beaucoup à travers ses réactions vis-à-vis des autres membres de sa famille. Un des personnages par rapport auquel elle réagira le plus, ben, c'est évidemment son fils Bart, hein, qui enchaîne les bêtises. Bart, qui est aussi le personnage le plus populaire auprès du public.
Bon, ça a pas été facile, mais on a réussi à regarder toutes les vidéos de chute sur les testicules qu'il y a sur le net.
Maintenant, on laisse un super commentaire. LOL, ça doit faire mal.
Oh, je crois qu'il y a rien d'autre à faire que d'aller jouer dehors.
Bart, de son vrai nom Bartholomew Jojo Stimson, c'est l'enfant cancre américain par excellence, hein. Il n'aime pas l'école, il préfère la télévision, faire du skate ou passer du temps à se chamailler avec sa sœur. Et c'est le personnage principal des trois premières saisons.
Exactement, et c'est vraiment lui qui va lancer la popularité des Simpsons dans le monde, donc avec ce qu'on a appelé à l'époque la Bartmania, c'est-à-dire avec un nombre incalculable de t-shirts qui ont pu être publiés à l'époque, « Don't have a cowman »,« Cowabunga », qu'est-ce qu'on a eu d'autre ?«
It's your short »,«
I caramba ».«
Underachiever » aussi, celui-là a beaucoup déplu à une partie de l'Amérique, justement parce qu'il y avait une espèce de mise en avant du fait que oui, je foire tout et c'est bien.
Il y a des écoles publiques américaines qui ont carrément interdit les t-shirts qu'ils représentent en estimant que Bart est un mauvais modèle pour la jeunesse américaine.
Et James L. Brooks s'en défendait en disant mais la télévision, le sitcom américain n'est rempli que de personnages modèles. Est-ce que vous en avez autant dans votre vie, quoi? Effectivement, oui, Bart, il est le. Bah, ouais, c'est ça, la voix de tout ce qui ne va pas, le témoignage, en fait, l'expression de ce qui foire, quoi. Les Américains sont un peuple qui sont effectivement connus pour être accro à la surstimulation, et c'est très clairement ce qu'ils cherchent. Il y a même un épisode où avec Milhouse, ils boivent tellement de boissons sucrées là qui deviennent complètement ça devient une drogue pour eux, en fait, et
hyperactif,
ouais. Ils se font tout un trip jusqu'à se faire tatouer, enfin bon.
et moi j'ai l'impression que c'est la grosse porte d'entrée aussi, Bart, pour l'aspect méta de la série, en fait. C'est-à-dire que en gros déjà, en fait, il concentre beaucoup de la pop culture, ouais. C'est-à-dire vraiment sur lui, c'est-à-dire que Batman, voilà, c'est après Batman, tout ça, etc., c'est une représentation du super-héros à sa manière, évidemment, hein, avec ce fameux moment quand il se transforme en Batman, où il va voir le mec dans une convention et il lui dit « Mais t'es qui, toi ?» Et en fait, il l'attrape et il lui répond « Je suis Batman », comme ça, et c'est exactement la phrase de Michael Keaton dans Batman de Burton, quoi, où, qu'ils ont parodié. Et justement, en fait, quand il y a eu, moi, il y a un épisode que j'aime beaucoup aussi, mais en plus qui est, avec la VF, c'est presque ça marche et en même temps ça marche pas. C'est ce moment, en fait, où Bart devient une star dans les Simpsons. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où il devient connu parce qu'il a cette catchphrase qui est « j'ai rien fait ». En fait, il casse un truc et il dit « j'ai rien fait, c'est pas moi », parce qu'il a le réflexe, en fait, direct de pas, parce qu'il sait qu'il va se faire engueuler, en fait. Et donc il dit « j'ai rien fait », alors qu'évidemment, c'est lui qui est responsable. Et il passe à la télé à cause de ça. Il devient une star à cause de ça.
Et il casse le décor de
chez Krusty.
Voilà. Et il dit « j'ai rien fait » et ça fait marrer tout le monde. Et du coup, Krusty voit la possibilité de faire du pognon avec cette phrase.
Ouais. Et du coup, en fait, ça devient une chanson où ils reprennent « You can't touch this » de MC Hammer. Et donc, c'est Bart qui fait « j'ai rien fait ». C'est comme ça et tout. Et tout le truc, en fait, ça devient un truc méta où d'un seul coup, tu te rends compte que Bart, en fait, dans les années 30 ou 40 ans après, devient une espèce d'enfant star sur le retour, donc, en fait, qui était connu comme ça, qui est complètement déchu et qui apparaît dans des émissions télé pour dire juste j'ai rien fait au milieu de trois autres stars, en fait. Et ça, c'est clairement un discours méta sur la popularité de Bart au début des Simpsons, en fait. Mm. Et en gros, c'est voilà, il y a un autre. Moi, j'ai arrêté de regarder la série de manière, en tout cas, clairement assidue. À l'arrivée du film, hein, donc à peu près donc une quinzaine d'années après. Mais il y avait encore, par exemple, un épisode que j'avais vu où je me rappelle très bien que le début du générique, le détournement du générique, c'était Bart qui était obèse. Parce qu'il avait commencé à bouffer trop de bonbons, de trucs comme ça. Et en fait, il refaisait tout le générique, mais avec Bart obèse. Et donc, d'un seul coup, tous les mouvements sur son skate où il devenait hyper agile, etc., il foutait le bordel, il n'y arrivait pas parce qu'il était gros, quoi. Et donc, c'est pareil, c'est un commentaire méta sur leur propre générique. C'est-à-dire que voilà, il y a Bart, je pense, est vraiment le représentant de la pop culture. C'est lui qui fait rentrer tout un tas de personnages à travers ça, en fait, si tu veux, et tout un tas de commentaires. C'est lui le fan de McBain, en fait, qui est
une parodie de l'arme
fatale. Et puis de Arnold Schwarzenegger, voilà. C'est lui, alors avec Lisa en l'occurrence, hein, parce que c'est bien la seule, le seul truc sur lequel ils se retrouvent vraiment, en fait, qui sont fans d'Itchy et Scratchy, en fait, qui est quand même le dessin animé commentaire sur l'ultra-violence de la télé, etc. Sur l'aspect Tom et Jerry, mais version gore et tout, quoi. Donc voilà, c'est je pense qu'il représente ça, en fait, vraiment Bart dans le truc. C'est pas que. Et c'est cohérent parce que c'est comme ça qu'il est né. C'est ce que je disais précédemment, c'est que c'est la version de Denis Lamalisse que voulait avoir Matt Groening. Donc, quelque part, c'est cohérent que, puisqu'il est né, en fait, de l'esprit, en fait, de Matt Groening, de la façon dont lui aurait voulu avoir ça, son propre commentaire sur une création artistique de son enfance, bah, c'est normal qu'il ait cette représentation, finalement, sur la pop culture, quoi.
Et par rapport à cette question toujours de, d'underachiever, qui vraiment dans la culture américaine est quelque chose qui devrait être banni, en fait, Bart l'incarne, et l'incarne d'autant plus qu'il y a un épisode où il triche à l'école, ils sont en train de faire un test et il échange son test avec celui du premier de la classe, et donc il a la meilleure note, mais c'est un test en fait qui sert à repérer les enfants surdoués. Du coup, il est envoyé automatiquement dans une école de surdoués, où il est entouré de mômes qui le regardent évidemment de très haut. Mais ce que l'épisode met en valeur, c'est à quel point ces mômes surdoués sont juste insupportables, en fait. Et ont d'une certaine façon perdu tout sens de la sociabilité qui vient naturellement à Bart, bien qu'il soit insupportable, c'est quelqu'un de très sociable. Il est tout le temps en train de s'intégrer à des groupes. C'est lui d'ailleurs qui va s'intégrer au groupe de mafieux dans cet épisode qui fait beaucoup référence à Scorsese. Quoi.
Parce qu'il devient le gosse en fait qui fait les petites
les cocktails.
Leurs cocktails, et puis du coup ils font leur petite magouille et il doit sortir de la vie de la mafia en fait à un moment donné parce qu'il doit faire un choix quoi. Mais il y a aussi ce truc où, comme on disait en fait, que Homer en fait était le violentait. En fait, c'est devenu l'inverse. C'est-à-dire, dans la série, alors pas au même niveau, mais par exemple, Bart a clairement pris sa revanche au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y avait, alors plus encore une fois dans un côté cartoonesque, en fait, mais il y a des épisodes où d'un seul coup, je sais plus c'était quoi exactement le contexte, mais il se retrouve en fait à voir des cascadeurs et il voit à la télé en fait un truc de cascadeur où il y a un gosse qui prend une chaise et qui la pète sur la tête d'un cascadeur, et le mec n'a aucun problème et il se dit tiens je vais essayer ça avec mon père, et en fait il prend la chaise et il la pète sur le dos de son père qui s'écroule quoi. Donc en fait il y a tout un tas de trucs comme ça où ça devient effectivement le souffre, en fait il devient le, comment dire, Homer devient son souffre-douleur, donc ils ont inversé la dynamique aussi quoi.
Oui, notamment un épisode où il cherche à faire un gargule. Enfin, son père lui a fait des poissons d'avril à répétition, il en a marre, et décide du coup de se venger. Et avec le seul truc pour lequel il peut avoir Homer, c'est sa canette de bière, en fait. Et donc, il décide de la secouer, mais il la secoue de façon industrielle. Trois jours avec la canette de bière. Et évidemment, quand Homer l'ouvre, t'as Bart qu'elle tente de dire « poisson d'A !» Et là, t'as un énorme champignon atomique qui défonce la maison. Ouais. Ce qui est marrant aussi, c'est j'invite les gens, s'ils ont les DVD sous la main, à écouter les commentaires audio. Alors, je ne sais plus, désolé, c'est sur quel épisode, je crois que c'est dans la saison 2 ou 3. Parce que Bart, la voix de Bart aux États-Unis, c'est Nancy Cartwright qui le double. Et donc, c'était une femme qui faisait partie de l'équipe du Tracy Ullman Show au départ. C'est comme ça qu'elle s'était retrouvée à faire la voix de Bart. C'est pas sa voix naturelle, mais elle arrive assez facilement à la faire. Et elle raconte sur un épisode une anecdote hilarante, parce qu'à une époque, elle était enceinte, en fait. Et y a des gamins qui sont venus chez elle parce qu'ils avaient entendu dire que dans cette maison il y avait le personnage qui faisait la voix de Bart quoi, et elle les a accueillis enceintes donc avec la voix de Bart en leur disant un truc du genre je suis en train de perdre les os mec, tu sais, lost in the water man. T'as les mômes qui ont été absolument traumatisés qui sont partis en courant.
Effectivement, Cartwright, on en parlera dans le troisième épisode, hein, où on reviendra sur les comédiens, les comédiennes qui donnent vie aux personnages. Quelques petits trivia, quelques petites anecdotes supplémentaires. Je sais pas si vous le saviez, mais les Simpsons, ils ont pas trois, mais quatre enfants. Parce que Bart, il a un frère jumeau qui s'appelle Hugo, un frère siamois, en fait. Ils ont été séparés à la naissance. Peu de temps après leur naissance, et Hugo vit seul depuis cette séparation dans le grenier des Simpsons. Alors, il n'apparaît que dans les épisodes d'Halloween, évidemment, hein, c'est un personnage qui est fictif, fictif. Le reste du temps, on ne le voit jamais dans la série, mais il ressemble à Bart en plus sale, avec des habits déchirés, il porte les vieux habits de Bart Simpson.
C'est pas canonique, en fait, ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'entends par là, c'est que, tu vois, c'est comme Homer, il a un frère aussi qui apparaît, et en fait il est apparu au début puis on l'a jamais revu, on en a jamais entendu parler, c'est très rare. Et du coup, en fait, est-ce que moi j'ai toujours eu tendance à considérer que les épisodes d'Halloween c'était des capsules en fait où ils pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient sans forcément
sans que c'est de conséquences, voilà, sur la timeline.
Par exemple, il y a ce truc où où et d'ailleurs il faisait une très belle référence à Terminator 2, c'était magnifique, où t'as Homer qui tue le zombie Flanders, tu vois, et son fils qui lui dit ah mais t'as tué le zombie Flanders, et Homer qui répond mais c'était un zombie. Et donc en fait voilà, il y a tout un truc comme ça, et évidemment Flanders n'est absolument pas mort puisque c'est les épisodes de capsule en fait de qu'est-ce qui pourrait arriver dans un monde fantastique.
Oui, alors là aussi, c'est un personnage qui n'est pas canonique, comme on dit, mais qui est quand même bien présent.
Ouais, qui est utilisé.
Et qui est utilisé. Et puis, autre info amusante, hein, donc Bart fait évidemment des centaines de bêtises, il a vraiment une imagination sans limite pour ça, mais il figure aussi dans le classement des 100 personnes les plus importantes du siècle. Classement qui a été publié en 98. Et puis, en 2014, il est devenu la mascotte officielle de l'équipe de football de Saint-Pétersbourg.
D'accord.
Et dans un épisode, il nous est dit aussi qu'il finira stripteaseur.
Il y a plein d'avenir possible pour Bart. On voit aussi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il sait que de toute façon son avenir est pourri aussi. Il y a un côté entre guillemets hédoniste chez Bart, comme s'il était déjà tellement sûr de ça, qu'il avait pris la mauvaise voie, qu'il avait fait le mauvais choix, que de toute façon il n'y a aucun avenir pour lui. Et c'était un truc assez émouvant où je crois qu'à un moment donné, il explique à Lisa que c'est important pour lui qu'elle réussisse dans la vie. Parce que quand elle sera grande, il aura besoin de lui taxer du pognon. Parce qu'il sait déjà que sa vie est foutue quelque part.
Mais d'ailleurs, en plus, il le veut, parce que quelque part, en fait, quand il voit ce moment où il s'imagine en stripteaseur, donc il est grand et il est complètement. C'est la déchéance totale, hein, il est sur le truc en train tu sens qu'il est camé. Enfin,
il a une bedaine.
Ouais, aussi. Voilà, il est camé, ce que tu veux, etc., etc. En fait, quand il voit ça, la caméra descend et puis il fait ah, cool. Tu vois, il est super content, en fait. Tu vois, il se dit ah, c'est cool, je veux ça, quoi.
C'est vrai que la trajectoire de Bart est complètement à l'opposé de celle de Lisa. Lisa, alors là, on est dans l'extrême opposé. Elle a 8 ans, elle est surdouée, elle a 156, 167 de QI, on ne sait pas exactement, mais enfin, ça varie d'un épisode à l'autre, mais en tout cas, elle est extrêmement intelligente.
Maman, papa, il faut que je fasse quelque chose. Vous n'allez pas être content, mais je crois que c'est mon devoir de le faire.
Marge, elle va dire aux flics où on planque la drogue.
On ne plante pas de drogue.
Non, bien sûr que non.
Donc voilà, Lisa, c'est aussi un petit peu la morale. Elle incarne la morale de la famille. C'est la personne la plus cultivée. Elle joue de la musique, du saxo. Elle est végétarienne depuis la saison 7, bouddhiste depuis la saison 13. Elle soutient de nombreuses causes. Elle est féministe. Elle a gagné un concours d'orthographe. Enfin, voilà, elle incarne vraiment cette morale. Et ça peut agacer parfois.
Oui. Ben oui, elle est totalement inadaptée à la communauté dans laquelle elle grandit. Et encore une fois, c'est intéressant parce que je pense que c'est aussi le personnage qui ressemble le plus à ce qu'est le pool de scénaristes. C'est-à-dire que les valeurs que Lisa adopte, c'est souvent les leurs, en fait. Et en même temps, ils sont eux bien conscients que s'ils vivaient dans une ville américaine typique, isolée, comme Lisa l'est, ben, ils n'auraient pas d'amis, personne ne voudrait d'eux, etc. Et au bout d'un moment, leur délire végétarien bouddhiste finirait par courir sur le jonc de tout le monde. Donc, il y a une forme d'honnêteté, en fait, dans la description de ce personnage. Ceci dit, elle a pas, dès le départ, été aussi exceptionnelle. Hein. Dans les premiers épisodes, elle est quand même assez revêche, etc. Et il y a cet épisode, je crois que c'est dans la saison 2, qui, moi, compte parmi mes favoris, qui est un épisode réalisé par Brad Bird, qui est absolument superbement réalisé, qui est Le flic et la rebelle, dans lequel Lisa est tellement dégoûtée par le système qu'elle devient donc un voyou. Quoi. Et pendant ce temps, Bart, lui, se prend de passion pour la police, parce qu'il a découvert que voilà, quand on est flic, on a des guns et qu'on a du pouvoir sur tout le monde, et il devient en gros le flic de l'école. Tandis que Lisa est devenue la punk, quoi, le voyou. Donc c'est très, 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 très bien écrit et superbement réalisé, cet épisode.
Ouais, et puis Lisa, en fait, encore une fois, il faut avoir, pour le coup, je pense que dans un contexte comme ça, il faut avoir un personnage intelligent, parce que sinon, tu en sors plus, en fait. Ça
pour
devient...
relever le niveau.
Pas pour relever le niveau, forcément, parce que, en fait, j'arrête plus tendance à te dire, surtout que quand t'es censé représenter une famille, t'es censé au moins avoir un point d'ancrage aussi, parce que déjà, tout le monde est censé être plus intelligent que les autres dans son esprit. C'est ça le truc, en fait, j'ai envie de dire presque. Mais quand bien même, ça serait faux. Mais en fait, le point aussi, c'est que Je pense que tu peux pas t'attacher que à, en fait, en tout cas, dans la longévité d'une série comme Les Simpsons, qui doit déjà en fait en soi avoir 24 épisodes, si tu veux, par saison, quoi. Je crois que c'est ça, hein, il y en a 24. Rien que ça, si c'était 24 épisodes de crétins, je veux dire, au bout d'un moment, tu tiens 2-3 saisons, mais voilà. Et mine de rien, en fait, elle répond en fait aux autres. C'est-à-dire que vraiment, il y a un point en fait où elle est comme ça. Et mais jusqu'à un point où tu peux même t'en moquer, parce que justement, là, on parlait de l'avenir de Bart, qui se voit comme un stripteaseur, mais pour le coup, l'avenir de Lisa, c'est présidente des États-Unis, carrément, quoi, tu vois. Donc il y a cette espèce de truc où, comment dire, oui, elle est. Moi, j'ai du mal, en fait, la considérer énervante, en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment au contraire, en fait. Je trouve que quand les gens t'expliquent que, par exemple, cette espèce de logique de dire c'est pas un personnage. Bart n'est pas un personnage, un bon exemple, tu vois. En fait, c'est étrange que personne ne leur ait opposé Lisa, en fait, de l'autre côté, quoi. Donc, du coup, et là, pour le coup, c'est que ce soit pour les petits garçons, pour les petites filles, c'est pas la question, en fait. La question, c'est que t'as ce personnage-là qui existe, quoi. Donc, du coup, toute la construction dramatique, scénaristique, dramaturgique des Simpsons, en fait, elle est dans ces oppositions-là.
Oui, et c'est ce obligatoire.
Voilà, c'est ça.
Nécessaire.
Et du coup, en fait, voilà. Et puis, il y a plein d'épisodes, enfin... Moi, je me rappelle d'un épisode vraiment touchant où justement, en fait, son père ne s'intéresse pas au saxo. Et en fait, elle va devenir amie avec un type, je crois, c'est ça, qui a une voix... Non, c'est le bluesman. Le bluesman. Quand il s'appelle Gencive Sanglante, c'était ça le truc. Et c'est pareil, elle a une relationnelle, elle a un espèce de père de substitution avec ce type.
Qui va mourir, d'ailleurs.
Qui va mourir et qui est, comment dire, une manière pour elle de la faire grandir dans cet épisode. Et... d'avoir un espèce de, comment dire, voilà, et c'est un épisode qui est hyper, c'est pas l'épisode le plus drôle, c'est pas l'épisode le plus, voilà, mais c'est un épisode qui, encore une fois, révèle l'humanité du personnage et qui est hyper touchant, quoi. Donc, du coup, je pense vraiment, je sais pas comment les gens découvrent les Simpsons, mais moi, je sais, comme je l'ai découvert vraiment dès le début et en fait, en continu, ça donne vraiment une perception, en fait, c'était assez équilibré, mine de rien, en fait, ils arrivaient vraiment à se dire, bon, bah là, c'est l'épisode sur Lisa, là, c'est l'épisode sur Homer, là, c'est l'épisode sur Marge. Et à chaque fois, en fait, donner un corps émotionnel, en fait, à ces personnages-là, une importance et un ancrage, en fait, dans la série, qui fait que, bah, du coup, tu te dis, OK, Lisa, elle est comme ça, c'est défini, et puis on verra ce qu'on en fait au fur et à mesure des choses, tu vois, comme tous les autres personnages, en vrai. Et du coup, moi, j'ai du mal à la dissocier complètement, finalement, de voilà, et de dire, ah, elle, j'aime pas ce perso, je préfère l'autre, etc. Tu vois, c'est vraiment, il y a ce truc de c'est là où c'était très bien fait aussi, quoi.
Elle est nécessaire au bon équilibre de la série. Et puis au-delà de cette posture, de ce compas moral, finalement, qu'elle incarne dans la série, c'est aussi un personnage qui, par moments, va se rebeller. Là où Bart est dans une rébellion permanente à travers ses bêtises, elle va être dans une autre forme de remise en question, de critique de la société. On voit dans l'épisode Le Futur Passé, où on découvre que quand elle est plus vieille, elle a des relations polyamoureuses avec des femmes. Bon, après, elle finit par rentrer, on va dire, dans la norme. Elle se marie avec Milouz. Se marier avec Milouz.
Par dépit, alors.
Par dépit, mais en tout cas, voilà. Et puis, c'est un personnage qui va se rebeller à sa façon.
Mais aussi un personnage qui a un besoin, déjà idéaliste, au sens où on la voit très souvent projeter les choses, c'est-à-dire qu'elle souvent, elle est toujours en train d'imaginer un futur, et on voit à quoi ça ressemblerait, mais elle est aussi coincée par ces images et cet idéalisme. Et du coup, souvent, elle tente d'imposer son idéal aux autres. Il y a l'épisode où elle devient végétarienne, où elle nique le barbecue de son père, quoi, qui n'a rien demandé, qui était tranquillement en train de manger sa viande de cochon. Elle nous est aussi montrée assez fréquemment comme une personne psychorigide, en fait, par rapport à ça, sans aucune souplesse. Et en même temps, il y a des moments, quand elle est en quête de reconnaissance, justement, où elle fait preuve de trop de souplesse. C'est-à-dire qu'il y a, quand elle cherche justement à établir une relation avec son père Homer, elle va se mettre à faire tout comme lui, en fait. Et ils vont se mettre à faire des paris sportifs, des trucs comme ça. Et en fait, elle n'est plus elle-même à ce moment-là. C'est un peu l'antithèse de Marge. Marge, elle, comme on l'a dit, elle est totalement angoissée par cette idée d'être intégrée à cette communauté, d'être un socle, de tout bien faire comme il faut. Il faut que rien ne dépasse. Et Lisa, elle est obsédée par l'idée de sortir de ce cadre. D'ailleurs, parfois, ça touche au ridicule quand elle réalise que ses combats sont déjà gagnés. Je crois qu'il y a un épisode où elle, à un moment donné, elle dit que c'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle a pas le droit de faire du football et que donc voilà, elle veut jouer.
L'équipe.
Et en fait, on lui dit mais il y a plein de nanas qui font du football et au moment où elle apprend ça, elle fait bon bah ça m'intéresse plus. Tu vois, donc
c'est marrant parce que ce que tu dis en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle est aussi un des angles critiques des Simpsons, c'est-à-dire que en gros. Les sitcoms, c'est basé l'idéal sur une logique d'idéal américain jusque-là, qui vient quand même, qui remonte de très loin, hein, c'est-à-dire qui remonte de Capra en fait. Si tu veux. Et l'idéalisme justement qu'elle représente, c'est ça, et c'est un idéalisme qui est parfois critiqué. Et parce que c'est la notion des Simpsons, c'est-à-dire que c'est l'importance des Simpsons, c'est aussi ce qui fait la série. Et en gros. Ça a beau être une fille intelligente, par exemple. Et les Simpsons ont beau critiquer à travers Itchy Scratchy la violence, c'est quelque chose qu'elle aime. Donc du coup, en fait, si tu veux, elle a aussi ce point d'ancrage pour dire, voilà, en fait, bah, on aime ça aussi, en même temps qu'on peut critiquer. C'est-à-dire, on aime l'idéalisme de Capra, mais on peut aussi le critiquer. Et du coup, en fait, elle a ce point, en fait, elle est plus fine et plus subtile, en fait, si tu veux, que ce qu'elle représente vraiment, si tu la définis en deux traits de caractère, quoi. Et ça, c'est, mine de rien, c'est pas non plus... C'est plutôt bien vu et bien écrit, quoi. Donc c'est un personnage beaucoup plus effectivement moins attachant et abordable d'entrée de jeu, mais vraiment important, quoi.
Un autre personnage de la famille qu'on entend peu, mais qui pourtant a toute son importance, c'est Maggie, hein, le bébé Maggie qui a un an dans la série, Margaret Evelyn Simpson de son vrai nom. En 30 ans, le bébé est toujours à quatre pattes avec sa tétine, ne parle pas, sauf dans, je crois qu'il y a deux ou trois épisodes où elle parle, mais c'est vraiment, c'est vraiment tout.
Ouais, il faudrait vérifier, mais je crois que la première fois où elle a dit un mot, c'était
papa.
Et c'était Elizabeth Taylor qui lui avait donné la voix, non, ou en tout cas une superstar incroyable.
Alors, moi, je me rappelle qu'à l'époque, ouais. Il y avait une alors, je ne sais pas si c'est arrivé, il faudrait vérifier. Mais en fait, il y avait une rumeur comme quoi elle allait finir par dire ses premiers mots. Et ça allait être Whoopi Goldberg qui allait les dire, quoi. Et en fait, Maggie, après, c'est un personnage... presque de slapstick, en fait, hein, pour le coup. C'est-à-dire que, en gros... c'est un bébé, et un bébé, en fait, en gros, on a tendance à considérer que ça reste dans son coin, voilà, sauf qu'en fait, il y a cette espèce de côté incontrôlable où d'un seul coup, le bébé découvre la vie, et elle se retrouve à faire un tas de trucs, elle se retrouve à être sur des cordes à linge, en fait, à traverser d'un immeuble à l'autre, et ce genre de choses, et ça devient un personnage, un pur personnage de slapstick. Elle a aussi ce truc de critiquer sans critiquer, si tu veux, les autres personnages, par exemple. Elle va voir qu'un personnage est triste, elle va sortir sa tétine et lui mettre dans la bouche. Et en fait, voilà, il y a un truc de, d'un seul coup, en fait, elle a l'intelligence d'un adulte dans un corps de bébé, quoi. Et ça, c'est de la pure logique de slapstick. C'est-à-dire que c'est vraiment, en dehors de ça, le personnage ne serait pas du tout intéressant et n'existerait pas. Et quelque part, il y a eu cette question au début des Simpsons de se demander si on allait la faire grandir et si ça allait devenir un petit enfant de 2-3 ans, etc. Et en fait... Comme les Simpsons sont figés dans le temps, dans leur évolution, en tout cas, dans leur façon de grandir, bah en fait, ils ont maintenu ça avec Maggie, et c'était la meilleure idée possible, en fait.
Et il y a aussi un jeu des scénaristes avec cette idée, justement, que, comme tu l'as dit, comme c'est des bébés, on n'en tient pas compte. C'est comme si, au fond, ils n'avaient aucune place dans la société. Donc, il y a déjà ce gag récurrent d'Homer qui oublie régulièrement qu'il a une fille. Je crois qu'à un moment donné, il dit à l'école voilà, qu'il a il est père de deux enfants et t'as Marge qui le reprend. Homer, nous avons trois enfants. Marge, le chien, ça compte pas pour un gosse. Donc il y a cette idée qu'effectivement personne ne fait gaffe au bébé et ils vont tellement bien en jouer. Que
elle règle des trucs. En fait.
Il va y avoir un épisode fameux que Matt Groening a conçu comme un cliffhanger qui est attiré sur Monsieur Burns, dans lequel il décide consciemment à l'époque de refaire la grosse opération marketing de Dallas avec qui a tiré sur JR, donc de conclure une saison des Simpsons par Monsieur Burns se fait tirer par quelqu'un, on ne sait pas qui est le mystérieux assassin. Et donc, pendant l'été, les Américains sont invités à déduire qui l'a trouvé. Et ils ont laissé plein de pistes dans l'épisode, parce qu'à l'époque, on sait que tout le monde a des magnétoscopes qui vont faire des arrêts sur image, etc. Il y a plein de pistes qui tendent vers différents personnages, en fait, possibles, comme étant les meurtriers. Et il sera révélé que le meurtrier, c'était Maggie. Et il y avait déjà cette idée que on fait tellement peu attention au bébé que même les spectateurs n'auront à aucun moment l'idée que ça puisse être elle, en fait, qui était derrière ça. Mmh. Et là, d'ailleurs, aussi, on voit à quel point Maggie, elle est l'expression de ce que, comment dire, d'une action qui n'est jamais faite par la communauté de Springfield. C'est-à-dire, tu disais, quand elle voit un personnage triste, elle lui donne sa tétine, parce qu'elle est la seule à voir que ce personnage est triste. Mais elle est aussi la seule à voir que si Springfield veut régler ses problèmes, la première chose, c'est de se débarrasser de Burns, quoi. Elle parle pour tout le monde, en fait.
Et puis, il y a ce gag, en fait, si tu veux, qui est récurrent, puisqu'il est dans le générique, en fait, qui quand même exprime beaucoup de choses, je trouve. C'est ce moment où, en gros, Maggie est sur le tapis roulant
au supermarché.
Et en fait, la caissière la prend et pipe, la bip, et en fait, ça a un coup, quoi. C'est-à-dire que ça devient un truc, il faut la payer, quoi. Ouais. Et en fait, ce gag, si tu veux définir les Simpsons, ça dit tout ce que ça dit. C'est-à-dire une critique de la société américaine, quoi. Donc, c'est assez marrant, en fait, parce que c'est un gag. La fonction d'un gag, c'est d'arriver à faire comprendre le truc en deux secondes, en fait.
Alors, il y a plusieurs explications possibles, d'ailleurs, derrière ce chiffre qui s'affiche sur la caisse. Hein, j'ai lu plusieurs explications. Je ne sais pas laquelle est la vraie. Il y en a qui disent que le chiffre qui s'affiche, donc c'est 464 $ et quelques, c'est le prix d'études pour des enfants aux États-Unis, prix moyen de la scolarité. Alors, j'imagine que ça doit être un prix par mois, quelque chose comme ça.
Oui, plutôt,
Ou alors, c'est le prix simplement pour faire vivre un bébé, tous les mois également. Mais en tout cas, voilà, ça replace dans un contexte d'Américain moyen.
Tout à fait.
Et il y a aussi un truc intéressant avec les personnages de Maggie, relatif à l'objectivisme, qui est un truc qui n'est pas du tout connu en France, mais qui a grosse importance aux États-Unis, qu'on doit à un écrivain qui s'appelait Ayn Rand, une femme russe immigrée aux États-Unis, qui a beaucoup écrit sur l'anti-collectivisme, on va dire. C'est des fictions qu'elle écrivait, mais à travers ces fictions, elle mettait en scène comment toutes les idées de collectivisme détruisait l'individu et notamment l'incapacité à déployer son génie. Bon, on l'appelle le prophète de l'égoïsme. Voilà, les libéraux, les ultra-libéraux américains l'adorent. Adorent cette philosophie égoïste, on va dire. Et Maggie incarne le potentiel, en fait. C'est un bébé, donc elle est capable de tout, mais elle grandit dans un monde qui va ne faire que lui mettre des limites, en fait. Et y a un épisode où elle fait des constructions magnifiques à l'école, et à chaque fois il y a un prof qui vient qui lui détruit sa construction parce qu'en fait elle se fait remarquer en faisant un truc trop beau, trop magnifique, trop grand, etc. Et elle est envoyée dans une école qui est littéralement appelée l'école Ayn Rand pour les petits bébés, quoi, pour essayer justement de développer ce potentiel, en fait.
Alors, entre-temps, j'ai vérifié. Donc, sa voix, pour son tout premier mot, quand elle dit « papa », c'est bien Elizabeth Taylor qui lui prête sa voix. Et elle parle à nouveau dans l'épisode « Manucure pour quatre femmes ». Et là, c'est Jodie Foster qui va incarner Maggie dans une allocution très émouvante sur les droits des bébés, notamment. Et puis, on la voit aussi plus vieille, hein, dans des épisodes où Bart et Lisa voient leur futur. Et là, on découvre qu'elle devient une rockstar à l'âge adulte. Donc, finalement, ce personnage qui n'avait pas de voix, qu'on a connu toujours muet, va exister à travers ses cordes vocales. Alors, on a fait le tour de toute la famille originelle des Simpsons. Je vois qu'on est déjà à plus de 50 minutes d'émission. D'accord, on a battu le record de l'épisode de Breaking Bad. On va quand même dire un mot des personnages secondaires. Hein. Alors, on va peut-être pas s'attarder non plus trop longtemps dessus, mais impossible de parler des Simpsons sans parler de Monsieur Burns et Smithers, par exemple.
Monsieur Burns, c'est le Machiavel absolu, en fait, quand tu le regardes dans le truc, parce que c'est la représentation du patron, de la sangsue, enfin, j'ai envie de dire, même presque en fait de la vie.
De, de celui qui se nourrit en fait de la communauté.
Voilà.
C'est le comte Dracula.
Voilà, c'est ça. Et il est représenté comme ça d'ailleurs.
Du capitalisme américain, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment un personnage, comment dire, c'est vraiment un point politique, idéologique sur lequel les créateurs se sont vraiment posés, quoi. C'est-à-dire une certaine vision du capitalisme américain qui a fait la part belle, justement, au Rockefeller et à toutes ces familles qu'on nous porte en héros. D'ailleurs, il est souvent représenté comme quelqu'un qui nous vient du début du XXe siècle. Hein. On le voit tout le temps quand il est gamin. Littéralement, il est né en 1900, quoi. Un truc comme ça.
On dit même dans un épisode qu'il est né en Pangée, donc à l'époque du super continent, avant que tous les continents actuels se détachent.
Voilà. Et l'histoire américaine a fait de ces gens-là des conquérants, des héros, en mettant bien sûr sous le tapis le fait que leur conquête et leur héroïsme supposé s'est fait en fait en suçant le sang de tous les gens qui ont travaillé pour eux, quoi. Et donc lui, c'est littéralement ça. Il nous est dépeint comme littéralement comme un vampire, quelqu'un qui peut pas mourir.
C'est ça. Ouais. Et il y a cette notion que Smithers, pour le coup, en fait, qui est le lèche-cul absolu, quoi, serait son amant, en fait, même si c'est totalement suggéré, puisque en fait, je pense qu'il y a aucune relation entre eux au sens physique du terme. Mais lui, Smithers, c'est littéralement amoureux de Monsieur Burns, et c'est quasiment, je crois, il y a même un truc à un moment donné, il y a un épisode, je crois, où
c'est
totalement suggéré.
Au fil des saisons, c'est de plus en plus explicité.
Il a des dessins, de Monsieur Burns qui est représenté de manière physiquement, splendide et tout ça. Enfin, il y a des trucs comme ça. Et du coup, mais ça participe, ça découle plus en fait du côté soumis. En fait, de Smithers,
il est sous son emprise.
Voilà, il est sous son emprise et c'est son subalterne. En fait, c'est vraiment son Donc en fait, sa manière à lui d'exister à travers ça, c'est d'être tombé amoureux de Burns en fait pour justifier en fait tout ce qu'il subit.
Le syndrome de Stockholm.
Exactement. Et en fait, du coup, c'est un personnage qui existe comme ça et qui peut de temps en temps, encore une fois, parce que c'est les Simpsons et que c'est là où en tout cas ils excellaient dans les premières saisons, se révéler parfois être un allié. En fait, pour la famille, pour Homer, par exemple, ce genre de choses, quoi, ou pour même les travailleurs. Mais c'est utilisé avec parcimonie, quoi. C'est ce qui aussi, en fait, peut le rendre attachant, en fait, Smithers à travers ça, quoi. Alors que Burns, c'est vraiment, c'est une ordure, quoi.
C'est le méchant.
Voilà, c'est ça.
C'est le méchant. Et alors là où Burns incarne donc le capitalisme, le monde de l'entreprise, on a Krusty le clown qui lui incarne le monde de la télévision et des médias.
Il y a Brockman aussi, hein, qui est le journaliste vedette, qui incarne le côté infotainment des médias. Mais effectivement, Krusty, c'est un mélange, en fait. C'est à la fois le comédien et l'affairiste, parce qu'il a quand même une chaîne de restaurants qui vend de la bouffe dégueulasse au môme, il fait du merchandising pourri, etc., quoi. Et il sert... c'est un commentaire sur pas mal de leurs collègues, parce que dans le staff d'écrivains des Simpsons, souvent, on le sait, les scénaristes sont aussi des comédiens frustrés. C'est des gars qui ont, pour certains, essayé de faire du stand-up, etc. On a dans le pool de scénaristes quelqu'un qui va devenir une célébrité de la télévision américaine, qui est Conan O'Brien, qui est scénariste dans les premières saisons et qui va avoir son propre show ensuite à la télévision, un grand succès. Et à travers Krusty, il se moque un peu, gentiment, de toute cette culture du stand-up américain, des gens qui se piquent les vannes, etc.
Il y a même, je crois que c'est un des principes, en fait, qui a créé une storyline, en fait, avec Tahiti Bob. C'est-à-dire que Tahiti Bob lui amène, c'est son sidekick comique, en fait, à Krusty. Il lui amène, en fait, des blagues que Krusty pique. Et d'un seul coup, Tahiti Bob veut le tuer, en fait. C'est-à-dire, il y a tout un truc où ça crée une situation et ça devient, en fait, ça donne de l'importance à Bart parce que Bart le comprend, parce qu'il est tellement fan de Krusty que il va voir que Tahiti Bob essaie de le tuer, il va le pousser à la prison. Il y a tout un truc comme ça. Et en fait, c'est lié à ça, c'est lié à ce truc, il me semble. Il se déteste, ouais. Il le déteste à cause de ça, en fait.
Et aussi, l'hypocrisie qu'il y a derrière ce personnage, qui est donc censé incarner le clown gentil pour les enfants, et qui est le personnage le plus pervers de la ville, dont on suggère qu'il fait tout, quoi. Il se drogue, il va chez les putes.
Il
est d'un cynisme total vis-à-vis de sa production. Et en même temps aussi, une victime de la société. Il y a un épisode dans lequel ils ont fait écho à une actualité américaine. On parlait dans le premier épisode de référence à Pee-wee's Playhouse, donc qui était cette série qui avait vraiment beaucoup plu aux gamins dans les années 80. Et lorsque le comédien Paul Rubens a été découvert en train de se masturber dans un cinéma porno, ça a créé un scandale dans tout le pays où les parents se sont retrouvés à brûler des poupées à l'effigie de Pee-wee. Et donc il y a un épisode où Krusty le clown est en disgrâce et où on voit les habitants de Springfield détruire des poupées de Krusty en écho direct à cette affaire, quoi. Et qui est en fait une façon de rappeler que ceux qui vous font rire à la télévision américaine sont aussi souvent les plus angoissés de vos concitoyens. Parce que, Paul Rubens, il faisait marrer les mômes, il le faisait vraiment. Ça l'empêchait pas, derrière, dans sa vie privée, d'être complètement mal dans ses bottes, quoi.
Et il y a un gag récurrent dans les Simpsons, en fait, qui est la meute, en fait, de citoyens mécontents. Comme dans les Frankenstein, en fait, ils arrivent avec leur torche, et en fait, ils viennent se brûler, en fait, si tu veux, soit leur idole, soit l'objet du problème. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce truc de, là, cet épisode dont parle Rafik, c'est emblématique de ce que les Simpsons faisaient, c'est-à-dire, en fait, critiquer, en fait, l'effet de masse, en fait, critiquer la façon dont la société, en fait, se réunit d'un seul coup, d'un seul, pour, en fait, aller au bûcher et pour régler un problème qui ne sera pas réglé, en fait, de toute façon. Et en gros, il y a cet aspect critique qui est fondamental et qui passe à travers ce personnage aussi, quoi. Donc, effectivement, ce côté, ce que vous voyez, c'est pas forcément ce qui est vrai, quoi.
Et puis, il y a quelque chose de paradoxal avec Krusty aussi, c'est qu'il ressemble énormément à Homer physiquement. Il y a même eu une tentative à un moment de raconter que, en fait, Homer, la journée, travaillait dans sa centrale nucléaire et le soir se transformait en Krusty, en ce clown. Et c'était lui, en fait, c'était le même personnage. Et puis, bon, pour des raisons de cohérence scénaristique, ça n'a pas été retenu, mais ça a été suggéré. Et il y a quelque chose de paradoxal dans le fait que Bart, qui a une vision pas forcément très positive de son père, qui passe son temps à se taper avec lui, a cette admiration sans borne par ailleurs pour ce clown.
Parce que c'est la version drôle.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est celui qui ne va pas
chercher à l'étrangler.
Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Donc, oui, c'est cohérent, et en même temps, même avec Bart, en fait, Krusty est absolument, enfin, il se rappelle pas de lui, tu vois, c'est à un moment donné, il y a un épisode,
il lui sauve la vie au moins 4 fois,
voilà, et il lui dit, mais t'es qui, au bout de la 7e, 8e saison, t'es qui, en fait, quoi. Et il dit, et puis là, t'as son assistant qui lui dit, si, il a essayé de vous sauver, ah, c'est vrai, voilà, quoi.
Alors Bart, il y a un autre personnage auquel il est confronté très régulièrement, c'est Skinner, hein, le principal du collège dans lequel il est scolarisé. Là, c'est l'éducation qui est taclée, qui est visée. D'ailleurs, je me rends compte qu'on retrouve aussi des enseignants dans South Park. Donc ça, c'est vraiment une façon de critiquer l'éducation.
Oui, puis c'est le quotidien des enfants. C'est-à-dire que c'est des personnages d'enfants, donc forcément, en fait, c'est dans leur quotidien de les montrer à l'école et de critiquer ça. Alors, South Park le fait différemment parce que t'as beaucoup de professeurs, t'as le professeur idéaliste, t'as le professeur, etc. Alors que là, en fait, par exemple, que ce soit Skinner ou Crapabel, il n'y a pas, en fait, de comment dire... C'est rare, je crois qu'il y a de temps en temps, dans un épisode, il y a un personnage idéaliste, un prof idéaliste qui va apparaître et qui va se casser les dents. Mais le truc avec Skinner, surtout, c'est que c'est pareil. En fait, il y a dans cette idée de réunir les personnages et de créer des situations, il y a ce moment où Skinner va, tomber amoureux d'une des sœurs de Marge, va essayer d'avoir une relation. Lui-même, il a une mère, en fait, si tu veux, qui prend le dessus à un point où c'est presque... en fait, une relation à la Norman Bates, en fait, dans Psychose, en fait, il y a un truc assez, assez malsain, quoi, parce qu'ils aiment bien jouer sur ce genre de logique, quoi. Donc voilà, c'est un personnage. Skinner, pour le coup, je trouve que c'est un personnage qui est presque creux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Raph.
Non, je ne le trouve pas creux. Il est pathétique, par contre.
Oui, mais ça, d'accord.
Mais en fait, il incarne. C'est un peu le pendant masculin de l'angoisse de Marge, Skinner. C'est intéressant parce qu'il nous est dit que ça vient d'un trauma. C'est-à-dire, évidemment, sa mère, donc, comme tu l'as dit, c'est la mère de Norman Bates, mais aussi il a fait le Vietnam. Et c'est quelqu'un dont on imagine qu'il a vu toutes les horreurs possibles et imaginables, et donc il a cette espèce de folie à être dans la norme tout le temps. Et donc il y a un jeu régulier avec l'idée qu'il va être contrôlé par le rectorat et qu'il faut que tout soit exactement en place, etc. Et que il faut que aucune chose ne puisse bouger. C'est ce qui en fait la victime idéale pour Bart, qui est un agent du chaos, quoi. Mais il y a aussi à travers lui cette idée que voilà, ces gens qui cherchent à bien faire, donc à ne pas se faire remarquer, à faire en sorte que tout roule et tout tourne, peuvent aussi être les plus traumas de nos concitoyens. Donc, de la même façon qu'on imagine que Marge a été abusée par sa mère et ses sœurs quand elle était gamine, lui, il a été abusé également. Et ça en fait, voilà. Il y a un épisode où c'est poussé à l'extrême, cette idée de bien faire, qui est l'épisode où il invite le principal chez lui, et il a cramé son repas, en fait, et il décide d'aller passer par la fenêtre pour aller acheter des sandwichs pour faire croire que c'est lui qui les a préparés, qui est devenu un mème internet très très utilisé, qui s'appelle le Steamed Ham, Steamed Hams, voilà. Et en fait, ils reprennent cette scène, mais ils la rendent encore plus stupide qu'elle ne l'est, mais parce que ça désigne idéalement quand on est tellement obsédé par l'idée de bien faire qu'on fait des choses totalement aberrantes, en fait.
Après, c'est un personnage qui disparaît au fur et à mesure de la saison, de la série, quand même. C'est-à-dire que, justement, au bout d'un moment, je pense que c'est celui sur lequel, et c'est pour ça que je disais peut-être qu'il était un petit peu creux, c'est qu'en fait, c'est celui sur lequel ils n'arrivent pas à itérer, en fait, forcément, au fur et à mesure, quoi. Donc oui, après, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai du mal à le trouver, finalement, attachant.
C'est vrai que finalement, quand on apprend son background, donc il a fait la guerre du Vietnam, on en apprend plus sur le personnage. Hein. D'ailleurs, son vrai nom n'est pas Seymour Skinner, son vrai nom c'est Armin Tamzarian. Et le vrai Seymour Skinner, c'est un ami qu'il avait à l'armée qui est mort pendant la guerre du Vietnam. Il y a un épisode dans la 9e saison qui en parle, et c'est Martin Sheen qui incarne, qui prête sa voix au vrai Skinner.
Et d'ailleurs, cet épisode est considéré par les fans comme le début de la fin pour les Simpsons, parce qu'en fait, justement, ils se sont sentis extrêmement trahis à l'époque, parce qu'il y avait cette idée que tous les personnages des Simpsons étaient des personnages pleins, c'est-à-dire qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Et en faisant de Skinner, en fait, un gars qui se fait passer pour Skinner, en fait, il remettait en cause tout ce que le personnage était depuis le début de la saison. C'est très, très, très mal passé. Et encore aujourd'hui, c'est un épisode qui est pointé du doigt comme le Jump the Shark, qui est l'expression qu'on utilise aux États-Unis pour dire qu'à quel moment une série a été trop loin et ne pourra plus jamais en revenir. Et c'est cet épisode-là qui est pointé du doigt.
Alors, on a vu Skinner, Krusty, Burns et Smithers. Il reste encore beaucoup de personnages. Et je crois qu'on ne va pas avoir le temps de parler de tout le monde. Si vous voulez, peut-être qu'on aborde un dernier personnage. Alors, Mo, grand-père Simpson, Abraham Simpson.
Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, très brièvement, c'est Ned Flanders. déjà, parce que sa dynamique avec Homer est sublime. Ned Flanders, c'est le mec qui fait tout bien. C'est l'antithèse c'est le père de famille. Idéal, et en même temps, qui dans la série nous est aussi montré quelque part comme cauchemardesque, dans le caractère tellement parfait que t'as pas envie de vivre avec lui, quoi. Mais ce que je trouve super bien vu, c'est que on peut imaginer que les scénaristes soient pas du tout des gens très, 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 très catholiques ou très chrétiens dans le staff des Simpsons. Et pourtant, ils ont fait l'effort d'écrire un personnage d'ultra chrétien américain dans lequel les vrais se reconnaissent. C'est-à-dire que, évidemment, c'est de la caricature, évidemment, ça va trop loin, mais à aucun moment, ils ont été suffisamment loin pour que les gens très croyants aux États-Unis se soient sentis insultés. Parce que, quoi qu'il advienne, Ned Flanders essaye toujours d'être un bon chrétien. Même s'il est nul, même s'il est too much, même s'il est à la côté de la plaque, etc. Au moins, il essaie de l'être. Et pour ces chrétiens américains, c'est suffisant pour en faire un personnage estimable à leurs yeux. Donc ça, c'était pas évident, parce que souvent, la télévision américaine a voulu taper sur cette population, et là souvent fait de façon assez assez insultante, en fait. Et là, avec Ned Flanders, ils ont jamais insulté, en fait.
Moi, alors j'y en a plein, en fait, hein. Évidemment, il y a Mo, il y a Barney, j'aime beaucoup parce que c'est le poivreau du village, quoi. Mais je vais pas forcément m'attacher. Il y a Wiggum, en fait, que je trouve génial parce que c'est le flic complètement, enfin le chef de la police qui est complètement stupide, en fait. Il y a Apu, en fait, qui est aussi super attachant et tout, quoi. Mais il y a un truc, en fait, que je vais pointer du doigt, et je sais pas si c'est l'endroit, mais il y a cette idée de guest star, en fait, c'est-à-dire de faire apparaître pas mal de gens.
On va beaucoup en parler dans le quatrième épisode.
Dans ce cas, je m'attacherai à un personnage, parce que c'est un comédien qui est mort, en fait, qui a été assassiné par sa femme, qui était Phil Hartman, en fait, et qui incarnait pas mal de voix, en fait, dans Les Simpsons, et notamment, enfin, ce Troy McClure, en fait, qui était cet acteur raté, qui réapparaissait dans chaque vidéo institutionnelle ou un truc comme ça, et en fait, et c'était un gag récurrent où il arrivait, il disait bonjour, je suis Troy McClure, vous m'avez vu dans. Et d'un seul coup, en fait, il te raconte un truc passé, c'est jamais le même, un de ses grands classiques et tout, puis en fait, il se rabaisse à faire un truc de télé, pas de télé-réalité, mais de truc institutionnel, voilà, oui. et c'était assez marrant. Et ça, c'était un des personnages, par exemple, de Phil Hartman, mais il en a plein d'autres, en fait, dans la série.
Lionel Hultz aussi.
Ouais. Mais voilà, donc en fait, Phil Hartman, c'était un comédien du Saturday Night Live, qui était très connu aux États-Unis, etc. Et l'histoire, en fait, il est mort en 98, c'est qu'il a été assassiné par sa femme, et c'était, ça a défrayé la chronique, quoi, à l'époque, quoi.
Sur ces paroles très positives,
ouais.
on va clore cet épisode. On a fait le tour des personnages au moins les plus importants de la série. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine ?
Alors, de quoi on parle déjà la semaine prochaine ?
La semaine prochaine, là, on a parlé de la série et de ses personnages. Maintenant, direction les coulisses pour en savoir plus sur son créateur, Matt Groening. On parlera aussi des différents showrunners, des comédiennes et des comédiens qui prêtent leur voix aux personnages. Tout un programme. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette collection.
Merci Clémence.
Un épisode longue durée, hein, mais bon, il fallait au moins ça pour traiter la plupart des personnages de la série. Wheel of Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnp-paribas et sur vos applications de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Simpsons. D'ici là, portez-vous bien.